Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Louis.
Eh bien bonjour Richard, ravi de vous retrouver ce matin. Vous avez été nombreux la semaine dernière à apprécier la chronique sur les premiers jours de campagne de Gabriel Attal, tant le personnage vous insupporte. Eh bien rassurez-vous, vous n'étiez pas les seuls.
Reconnaissez quand même qu'un Attal qui est un jeune trou du cul...
On ne peut pas dire ça.
On peut pas dire que c'est un jeune trou du cul. Enfin, voilà, je pense que ça va être un mème. Je peux pas vous laisser dire ça. Non, c'est un fin stratège. Alors la gueule du fin stratège, en fait, on va rappeler quand même que Gabriel Attal, c'est Emmanuel Macron en pire.
Voilà, donc heureusement que notre chroniqueur Alexis Poulain était là pour recadrer ce dérapage inqualifiable diffusé sur Sud Radio. Nous condamnons et nous nous rendrons bien évidemment sur place. Mais ces mots ne viennent pas de nulle part. Le journaliste Florian Tardif rappelle la claque électorale gigantesque que Macron s'était prise il y a un an, au point de le replonger dans une dépression.
Sort du second tour des législatives, Emmanuel Macron a perdu son pari, il s'effondre. Et Brigitte Macron, c'est là aussi... Il s'effondre, il est sur la terrasse de l'Élysée. Et donc il essuie ce soir-là une large défaite, il ne s'y attendait pas. Et c'est son épouse, Brigitte Macron, c'est un témoin de la scène qui a pu voir ça à travers les rideaux, tout simplement parce qu'il y a la salle des fêtes qui donne sur une partie des terrasses du palais, et qui a vu Brigitte Macron le secouer, littéralement. C'est comme ça qu'on me l'a rapporté, tout simplement pour lui dire « mais ressaisis-toi ». Et on est en 2024, tu vas rester encore deux ans et demi à la tête de ce pays-là, tu peux pas t'effondrer maintenant, il va falloir que tu tiennes.
Il y a un conseiller qui dit sans elle, il serait rentré en dépression en fait, le président, c'est ça ?
Oui, il y a eu une petite période quand même de dépression, mais sans elle, il aurait pu sombrer, je crois que c'est un terme qui est utilisé par l'un de leurs proches.
Gardez bien cette image en tête, parce que dans un an, exactement les mêmes reviendront frapper à notre porte avec leur sourire et leurs promesses recyclées. Et pour mesurer l'ampleur du culot, revoilà Valérie Ayé, celle qui avait subi une défaite historique aux européennes. Et donc la voilà de retour, sortie du bois, pour propulser Gabriel Attal.
C'est le candidat du oui, franc, sincère. Oui à l'ambition du travail juste. Oui à une nation qui intègre ceux qui la font tourner. Oui à l'ambition du travail qui invente, qui innove. Oui à l'ambition la vraie. Celle d'éduquer pour demain. Celle de financer pour demain. De protéger pour demain. Et moi je vous demande, qui entendez-vous aujourd'hui se saisir des projets pour le travail? Qui pour notre modèle social? Qui pour notre jeunesse? Qui pour l'Europe? Qui pour le défi gigantesque de l'IA? Qui? Eh ben ouais. Eh oui, Gabriel Attal.
C'est dur, c'est vraiment très dur. Même charisme d'huître, même phrase creuse, exactement comme avant. Exactement comme si rien ne s'était passé. Ces gens qui ont plongé le pays dans le chaos vont maintenant tenter de nous faire croire qu'ils vont le relever. Et pour ceux qui douteraient encore qu'ils se foutent royalement de notre gueule, prenons un exemple très concret. Samedi soir, finale de Ligue des Champions, guérillas urbaines, des blessés, un mort, et Emmanuel Macron qui se dit scandalisé.
Je veux remercier l'ensemble de nos forces de l'ordre, évidemment nos commerçants qui ont été touchés, les victimes, les gens qui ont été blessés. C'est pas le foot ça, c'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça, fini. On en a ras-le-bol.
Ouais, c'est pas bien. Remontons maintenant dans la DeLoréal. Retour en mai 2025. Même sport, même finale de Ligue des Champions, même dégâts pharaoniques, et toujours ce même président qui nous promettait que cela ne se reproduirait plus.
Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables, et ils ont privé beaucoup trop de nos compatriotes de ce qui aurait dû être un moment de bonheur et d'insouciance. Et donc, je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas cela.
Bis repetita. Vous savez désormais à quoi vous attendre après chaque événement, chaque victoire, chaque défaite. Les mêmes responsables, les mêmes discours, les mêmes promesses oubliées dès le lendemain. Et pendant ce temps, ces bras cassés continuent méthodiquement de détruire le pays. Car oui, la France est désormais plus pauvre que l'État américain le plus pauvre, et même derrière l'Italie, selon François Langlais.
Et récemment, l'Italie a aussi, pour la première fois, dépassé la France au niveau du PIB par habitant. Bonsoir François.
Bonsoir Anne-Claire.
Les derniers chiffres montrent clairement combien notre situation s'est affaiblie.
C'est vrai Anne-Claire. Qui aurait dit que l'Italie allait nous rattraper et nous dépasser en termes de niveau de vie? Sa situation s'améliore, la nôtre se détériore. Pire, la richesse par habitant en France est désormais inférieure de 1,5% à la moyenne européenne, alors qu'en 2019, nous étions 5% au-dessus des autres. Alors bien sûr, on pourrait mettre en cause la mondialisation, l'immigration, le Covid, la guerre d'Ukraine. Ça serait aboyer sous le mauvais arbre. La meilleure preuve, c'est que les autres ont fait mieux que nous, avec les mêmes conditions.
Voilà le résultat concret de 10 ans de gestion macroniste. Et pour continuer à nous gouverner avec autant de talent, ils s'entourent d'experts à leur image, comme Gilles Babinet, figure du macronisme numérique, qui dénonçait sur Thinkerview les prétendus algorithmes d'extrême droite, sans même connaître l'existence des Twitter Files.
Il y a des algos, et des algos qui sont devenus extrêmement puissants parce qu'ils rendaient des services économiques. Puis à terme, il y a un mec qui est arrivé, je prends par exemple Elon Musk, qui a dit, c'est quoi, je suis président de ce réseau social, ça m'a coûté 45 milliards et je vais le mettre au service d'une cause politique. Et donc, ça a été démontré, les travaux de Paris School of Economics l'ont montré, ça fait exploser les contenus de droite et d'extrême droite. Beaucoup plus que tout autre contenu.
C'est-à-dire là, c'est explosé, c'est équilibré, parce qu'avant Elon Musk, c'était pas du tout équilibré. Est-ce que tu peux me parler des Twitter Files ?
Je ne sais pas ce que sont que les Twitter Files, pour être franc. Tu vas me dire ce que c'est.
J'imagine
que c'était avant Musk.
Je vais te laisser dans ton ignorance. Et tu iras travailler plus tard.
Ok, oui. Très bien.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est tout de même fascinant dénoncer l'extrême droite à longueur de journée sans avoir jamais entendu parler de l'un des plus grands scandales de censure politique des réseaux sociaux. Ça relève presque de la performance. Et pendant qu'ils empilent les incompétents au poste clé, la France, elle, continue de brûler. Ce week-end encore, les grands médias parlaient pudiquement de débordement et d'échauffourée. Pendant qu'ils cherchent les bons mots, des familles, elles, cherchent leurs enfants. L'année dernière, Benoît était assassiné à Dax lors d'une guérilla urbaine après une finale de Ligue des Champions. Son père crie aujourd'hui sa colère sur CNews.
Puisque Benoît a été piégé par un déchet de l'humanité, une pourriture qui ne devrait même pas être sur Terre. Et ce jour-là, d'ailleurs, heureusement que je ne l'ai pas attrapé parce que je pense que je m'en serais occupé personnellement. Il n'aurait pas été en prison, il n'aurait pas eu le temps. Et à ce moment-là, moi, je m'adresse surtout aux politiciens. Puisqu'il y a comme 50 ans de politique et de justice en dérive. Les deux grands hommes qui ont contribué à ce qu'est le pays aujourd'hui, c'est Napoléon Bonaparte et Général de Gaulle. Depuis, on n'a eu que des clowns, que des incompétents. Et avec l'état de l'État, le guignol qu'on connaît, notre cher président Macron, qui ne fait pas grand-chose, malheureusement, pour le peuple, puisqu'a priori, des Benoît, il y en a tous les jours, chaque semaine, et l'État ne fait rien. Donc je ne sais pas ce qu'il cherche. Est-ce qu'il cherche qu'il y ait une guerre civile entre les bons et les mauvais et les méchants ? Ou à ce qu'ils cherchent que laisser pourrir le pays de l'intérieur pour avoir plus de pouvoir. Parce que, comme on dit, diviser pour mieux régner. Moi, je me pose la question.
Et Philippe de Villiers, lui, trouve les mots justes pour désigner la responsabilité historique de ceux qui ont laissé le pays dériver jusque-là.
À tous ces politiciens qui nous gouvernent, ou qui font mine de s'opposer, vous êtes tous coupables, tous responsables, tous complices. Ouais. Parce que la politique de la ville, c'est vous. C'est une faillite. Vous avez supprimé le mot assimilation. Vous parlez maintenant de l'intégration. C'est un crime. Il n'y a pas d'intégration, il y a une désintégration. Vous avez parlé d'insertion, vous avez parlé de société inclusive, le rapport Thuot en 2003, société inclusive. Je t'en foutrais de la société inclusive. Et on a aujourd'hui un climat de pré-guerre civile.
On sent cette colère froide, bien sûr, cette colère contenue, celle de gens qui ont tout perdu et qui regardent ceux qui ont tout détruit revenir aujourd'hui en sauveur. Évidemment, certains qualifieront ce discours de fanatique, de dangereux, voire d'extrême droite. Cette extrême droite fantasmée qui semble désormais terroriser jusqu'aux anciens bras cassés de la politique française, comme Jean-François Copé.
Moi, je suis désolé, mais l'argument du RN qui dit « votez pour nous, vous nous avez jamais essayé », ben si en fait. D'abord parce qu'il y a aujourd'hui des leaders populistes qui sont élus et qui amènent leur pays à la débâcle. Regardez Trump aux États-Unis, regardez ce qu'a fait Orban, je l'évoquais tout à l'heure, regardez un certain nombre de pays qui aujourd'hui ont restreint les libertés, ont porté atteinte à des fondamentaux de la dynamique économique et qui sont en train de ruiner leur pays. Bon, ensuite, je suis désolé, la France aussi, elle a essayé, parce que moi je veux bien que ce soit des choses dont on n'a jamais le droit de parler dans la catégorie des tabous. Enfin, il y a eu un moment où ça s'appelait la Révolution nationale, entre 1940 et 1944, eh bien, il y a une partie d'extrême droite qui a pris le pouvoir, qui a restreint les libertés dans un contexte d'occupation, de collaboration, mais qui surtout a appliqué une doctrine qui n'est pas très éloignée de ce que Pétain, de ce que Le Pen a raconté après, le protectionnisme, tout est bon chez nous, à bas l'étranger, pardon, eh ben, très bien, alors continuons de trouver ça formidable.
Quel point commun entre Bardella et Pétain ?
Parce que c'est devenu leur unique stratégie de survie, face au bilan, face aux morts, face à l'appauvrissement du pays. Ils n'ont plus qu'un seul argument, finalement, l'extrême droite. Une obsession qui contamine aussi le petit monde du cinéma et de Cannes. Le vidéaste Victor Ferry a d'ailleurs ironisé sur un échange des grandes gueules sur RMC entre Charles Consigny, l'avocat, et sa tante, Anne Consigny, l'actrice, deux membres d'une même famille réunis dans le même combat obsessionnel contre l'extrême droite.
Pour moi, ça n'est que d'abord la fin de la domination idéologique de la gauche et d'une certaine gauche caviar qui censurait les médias.
Ouh, il a dit gauche caviar. Ouh là là, tatata, elle est pas contente là. Tatata, elle se dit mon pauvre garçon, je vais t'emmener voir un film d'arrêt d'essai là sur une famille de migrants et tu vas comprendre en fait l'ampleur de ton erreur, quoi. Je veux dire, quoi, voilà.
Il y a pendant très longtemps et les prises de parole, et on voit bien que tout ça a un peu volé en éclats. Et puis, ils ne font à droite que ce que France Inter fait à gauche. Donc, je trouve que ça remet un peu d'équilibre. Et vous voyez, je fais ce geste en même temps que je parle.
J'ai confiance en Charles, donc je peux le laisser dire ce qu'il veut. J'ai confiance dans le fond de sa pensée qui est très, très anti-extrême droite, très protectrice de la démocratie, etc. Mais dans ses propos, quelquefois, on peut se demander s'il ne soutient pas. Je trouve que tu n'es pas assez fortement contre l'extrême droite.
Ouf. Voilà, comme ta tata. Regarde ta tata, elle est fortement contre l'extrême droite. Voilà. Tu devrais être plus fortement contre l'extrême droite parce que il faut que tu aies plus de sentiments, il faut que tu aies plus d'émotions, Charles.
Et ce petit monde partage la même arrogance décomplexée envers ceux qui les financent, celui de traiter leur propre public de fascistes, tout en exigeant son argent et son admiration, sauf que certains commencent à ne plus laisser faire, comme Maxime Saada.
Si quelqu'un sonne chez vous, vous traite de fasciste et ensuite vous demande de l'argent, peut-être que vous ne lui donnerez pas de l'argent. Et on va faire exactement pareil.
La réaction pourtant minimale du patron de Canal+ est désormais présentée par certains comme une forme de fascisme. C'est dire le niveau de déconnexion de ce petit milieu vivant hors sol. Mais d'autres commencent aussi à perdre patience. Bolloré, fils, cible désormais directement les responsables politiques qui ont ruiné le pays.
Les gens des dernières années ont ruiné le pays, ont détruit le paysage politique, ont récupéré à droite, à gauche. Moi, j'ai espéré beaucoup les premières années, en plus de tout ça. Hein. Très positif, en disant super, ils ont récupéré une tête d'affiche à droite, une tête d'affiche à gauche. En fait, tout le monde passe pour des traîtres. Le pays est ruiné. Et il reste plus que des extrêmes. Personne, je crois, pense en les programmes ou y croit. Mais je pense que les gens, c'est pas de l'adhésion, ont juste envie, pardonnez-moi, de donner un bon coup de pied au cul à tous ces gens qui font n'importe quoi depuis 10, 15, 20, 25, vous mettez le curseur où vous voulez.
Un bon coup de pied au cul, enfin. Le système commence doucement à se fissurer de l'intérieur, mais certains refusent toujours de partir et semblent même décidés à s'accrocher jusqu'au bout, à en croire les confidences de Brigitte Macron.
D'abord, j'aurais du mal à quitter l'Élysée,
oui.
Parce que c'est une belle maison. Je sais que ça va être compliqué, mais je sais aussi que ça se passera bien.
Du trou du cul au bon coup de pied au cul, le lexique de la vulgarité s'enrichit au fil de leurs promesses et de leurs trahisons. Ils s'accrochent, comme toujours, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Alors, quand ils reviendront frapper à notre porte, avec les mêmes paroles et les mêmes visages, souvenons-nous du bilan de ces dirigeants qui, durant toute la campagne, pèteront plus haut que leur QI et qui, pendant un an, ne souffleront que du vent. Voilà.
Excellent.
Un peu violent, par la fin.
Merci beaucoup, Louis Rigaudière.
Merci, Richard.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour l'analyse, je reçois avec bonheur Xavier Van Lierd, qui va nous parler d'intelligence artificielle. Bonjour, Xavier.
Bonjour, Richard. Oui, je voudrais revenir avec vous sur la façon dont l'intelligence artificielle change inexorablement nos vies, notre rapport au travail, à l'art, aux gens, et aussi, c'est le sujet du jour, à la politique. Car oui, l'IA change aussi notre rapport à la politique et notre façon d'en faire. Selon une récente étude, elle est même devenue, à l'occasion des dernières élections municipales, une sorte d'outil d'aide à la décision électorale. C'était fatal, bien sûr, puisque l'IA est devenue en réalité omniprésente dans la vie d'une majorité de nos compatriotes. Pour rappel, ChatGPT est apparu dans nos vies en 2023, et seulement trois ans plus tard, près de 5 Français sur 10 y ont recours au moins occasionnellement, et 1 sur 6 quotidiennement. Et bien sûr, on comprend bien pourquoi. L'IA, c'est sa force à réponse à tout. On peut donc la consulter à tout bout de champ, pour un oui, pour un non, et sur toutes les questions. Dans un récent pamphlet consacré à l'IA, l'écrivain Abel Quentin décrit parfaitement la façon dont Nous sommes collectivement tombés, en quelque sorte, sous le charme de l'IA, en mettant en scène un personnage imaginaire qu'il a malicieusement surnommé Michel Super. Alors, Michel Super est un cadre de 50 ans, à montre connectée, c'est un techno-optimiste, et nous dit Abel Quentin, il fut l'un des premiers à interroger ChatGPT. Il y a 4 ans, on lui a demandé d'inventer une recette de tarte au quetch, le robot s'est exécuté, et Michel Super s'est écrié « C'est super !» Et indéniablement, c'était super. Reconnaissons avec humilité, toutefois, que nous sommes tous un peu des Michel Super. Nous sommes nombreux à pouvoir nous reconnaître dans cette description du premier contact avec l'IA. Nous sommes nombreux à avoir posé un jour une question anodine à ChatGPT par curiosité et à avoir trouvé ça super. Et être revenu ensuite pour lui poser des questions moins anodines. D'après une enquête Ipsos BVA, 66% des jeunes Français de 11 à 25 ans considèrent désormais l'IA comme un conseiller de vie, 61% comme un confident, 54% comme un ami et 46% comme un psy. Alors vous l'avez compris, l'IA générative ne sert évidemment pas qu'à inventer des tartes au quetch, précisément parce qu'à la réponse à tout, nous avons tendance à la questionner sur tout, et notamment sur les enjeux et les questions politiques. Dans une récente note de l'Institut Terra Nova, j'espère que vous admirez au passage l'éclectisme des références et
je souffre pour vous. Je souffre pour vous.
Non, mais c'est une très bonne note. Alors que, donc, dans cette note, Jean-Dominique Lévy, qui dirige l'Institut de sondage Talona, s'est ainsi penché sur la façon dont les électeurs français ont utilisé l'IA à l'occasion des dernières élections municipales. Premier enseignement, 11% des Français ont eu recours à l'intelligence artificielle pour s'informer. C'est encore modeste. Avis donc aux partis qui pensent ne plus avoir besoin de militants. 58% des électeurs se sont encore informés en lisant des tracts et des brochures. 42% par le bouche à oreille, 37% par les affiches, 36% par les journaux locaux, etc. Les 11% de l'IA arrivent en 14e position. Ça semble donc encore une fois très modeste, mais en réalité, on ne peut en rester à ce constat. D'abord parce que les élections municipales sont évidemment par nature des élections de proximité où le contact direct et humain est évidemment plus aisé qu'à une élection présidentielle, par exemple. Mais surtout parce que ces 11% ne sont vraisemblablement qu'un commencement. L'étude souligne ainsi qu'il y a une très très forte variable d'âge. Seuls 1% des électeurs les plus âgés ont indiqué consulter l'IA, mais c'est le cas de 22% des électeurs de 18 à 24 ans et de 19% des électeurs de 25 à 34 ans, tant et si bien qu'il est peu probable que ces jeunes renoncent à leur conversation politique avec ChatGPT en avançant en âge, car c'est addictif hein, ce truc-là, et donc il est probable que le temps passant, l'IA devienne progressivement un mode d'information politique prépondérant. Deuxième enseignement, l'étude montre un usage émergent de l'IA, non pas uniquement pour s'informer, mais également pour affiner son choix au fil d'une conversation. 7% des électeurs ont été ainsi confortés dans leur choix initial, 5% ont changé d'avis, et 4% ne savaient pas quoi voter, et c'est carrément l'IA qui les a aidés à décider. L'observation, évidemment, n'est pas neutre, tout simplement parce que, contrairement à ce que l'on imagine parfois, l'IA n'est pas neutre. On dit que l'IA a réponse à tout, et c'est vrai, mais on devrait plutôt dire que l'IA a un avis sur tout, et cet avis représente donc, par nature, un formidable outil d'influence. Sans surprise, des chercheurs américains du MIT avaient d'ailleurs déjà observé, lors de l'élection présidentielle américaine de 2024, un renforcement de la préférence partisane des électeurs lorsqu'ils étaient placés face à un modèle conçu, les mots ont leur importance, conçu pour défendre leurs favoris, tandis qu'à l'inverse, leur engagement s'effritait lorsqu'ils étaient en contact avec un modèle conçu pour être opposé à leur candidat. L'IA peut donc, on s'en doutait, influencer une élection, infléchir un vote, et notamment auprès des électeurs les plus indécis. Or, selon l'étude portant sur les élections municipales françaises, ce sont précisément les électeurs traditionnellement les plus éloignés de la politique, les électeurs les plus indécis qui se sont tournés le plus volontiers vers l'IA pour déterminer leur choix, et du coup, cela change tout. Car si les 11% d'électeurs friands d'IA sont ceux qui peuvent le plus facilement basculer d'un camp à un autre, d'un candidat à un autre, eh bien, l'impact de l'IA sur l'élection devient en réalité potentiellement déterminant. Alors vous me direz, c'est pas nouveau, on peut en dire autant de la presse, oui, et vous ne croyez pas si bien dire. Car en réalité, dans la grande famille de l'information, l'intelligence artificielle et les robots conversationnels comme ChatGPT et la presse entretiennent des liens totalement endogamiques, voire incestueux. Une deuxième étude, publiée celle-ci dans la revue des médias de l'INA, permet d'en prendre la juste mesure. Les chercheurs ont mesuré justement, à grande échelle, la manière dont ChatGPT et ses concurrents redistribuent leur audience vers des sites d'information. Autrement dit, ils ont dressé la cartographie de l'influence de l'IA sur le trafic Internet pointant sur tel ou tel média. Et leur conclusion tient en une phrase: les accords conclus par certains médias avec ChatGPT changent radicalement la donne. Les chiffres sont ici éloquents. En 2025, ChatGPT a dirigé près de 10 millions de visites vers des sites d'information depuis la France. Grand bénéficiaire, Le Monde. À lui seul, il a récupéré 2,6 millions des clics, soit 26% du total. Concrètement, plus d'un clic sur quatre envoyé par ChatGPT aboutit sur les pages du grand quotidien français de centre-gauche. Juste derrière, c'est The Guardian, une sorte d'équivalent du Monde, mais version anglo-saxonne et internationale, qui recueille, lui, 6,2% des clics. À eux deux, ces médias captent donc plus d'un tiers de l'audience redirigée par ChatGPT vers la presse. Leur point commun, ils ont été les premiers à signer des partenariats avec OpenAI, la société qui a créé ChatGPT. Second point commun, ce sont des médias, disons, de centre-gauche. Autrement dit, lorsque vous posez une question à ChatGPT, ce sont en fait les journalistes du Monde qui répondent, ou plutôt un robot qui a été dressé à considérer que Le Monde dit la vérité. Je pense que, comme nous tous autour de la table, dans la vie de tous les jours, lorsque vous vous posez une question, et singulièrement une question politique, il ne vous viendrait pas à l'idée de vous dire « Tiens, je vais demander à mon voisin Jean-Louis parce qu'il est abonné au Monde », n'est-ce pas ? Eh bien, alors, il ne faut pas davantage poser la question à ChatGPT, car il est lui aussi biberonné au Monde. ChatGPT, c'est l'abonné au Monde imaginé par l'écrivain Christian Combaz pour se moquer de tous les conformismes. Mais n'en déduisez pas que vous devriez alors vous tourner vers le grand rival, Claude Haï, car de son côté, Claude Haï s'informe de façon prépondérante auprès des médias d'extrême-gauche que sont Mediapart, Blast et Combini. Autant carrément demander à Edwy Plenel ce qu'il vous conseille de voter. Et si par patriotisme économique, vous tournez vers Mistral AI, autant écouter France Info et France Inter, car la principale IA générative française est biberonnée, elle, aux médias de l'audiovisuel public. Donc oui, c'est français, mais c'est aussi, surtout, socialiste. Alors du coup, qui consulter, que faire ? Oui, que faire ? Bon, bien sûr, écouter Radio Courtoisie, soutenir Radio Courtoisie, évidemment. Mais aussi, probablement, ne pas s'enfermer dans l'illusion que l'intelligence artificielle est neutre. Et surtout, au-delà, veiller à ne pas s'enfermer dans les univers numériques et retourner dans la vraie vie. La vie physique, celle du contact humain, des échanges directs. Celle-ci n'a probablement pas dit son dernier mot, y compris en politique. Oui, l'intelligence artificielle va inéluctablement devenir un agent d'influence électorale, mais sans pour autant supprimer les autres moyens de s'informer. Il va s'ajouter aux journaux, aux tracts et bien sûr aux simples conversations, aux bouche à oreille, mais certainement pas s'y substituer. Tenez, une expérience concrète issue de la vraie vie. Lors de la dernière campagne électorale, je suis sûr que ma coiffeuse, Chris, si tu m'entends, oui, c'est bien toi dont je parle, eh bien, ma coiffeuse a, tout en shampoinant et coiffant ses clients, plus fait par sa gouaille, par son franc-parler, par son bon sens, en un mot, par son intelligence humaine, pour l'édification des électeurs de Carpentras que toutes les intelligences artificielles réunies. L'humain n'a pas dit son dernier mot, et il est même possible qu'il ait le dernier mot, et ça, c'est vraiment super.
Merci beaucoup, Xavier Van Dierde. Voilà, il nous reste 20 bonnes minutes pour parler. On est fasciné par la manière dont l'intelligence artificielle, effectivement, est rentrée dans nos réflexes quotidiens, pour le meilleur, mais surtout pour le pire, avec cette idée d'une démission complète de l'intelligence au prétexte que l'intelligence artificielle serait fondamentalement neutre parce que elle est réputée collecter tous les avis et en servir une synthèse bien dosée, exactement comme François Hollande faisait avec les propositions du Parti Socialiste quand il en était le secrétaire. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, les intelligences artificielles, en fait, sont possédées par des sociétés privées, que ces sociétés privées nouent des partenariats avec des sociétés d'édition, et que évidemment, il y a un biais manifeste qui apparaît. Non seulement le biais de ceux qui ont programmé l'intelligence artificielle, on se souvient de ChatGPT à qui on demandait de rédiger un poème en l'honneur des blancs et qui refusait, et à qui on demandait de rédiger un poème en l'honneur des noirs et qui y arrivait très bien. Nous avons avons dans notre rédaction de temps en temps recours à l'intelligence artificielle pour générer des visuels. Là aussi, suivant l'intelligence artificielle qu'on utilise, il y a des visuels que l'intelligence artificielle refuse de produire et qu'une autre intelligence artificielle produira. Donc ce mythe de la neutralité est pourtant bien ancré au point que des gens sont prêts à prendre des décisions de vie importantes. Alors je ne sais pas si voter est important, même si évidemment mal voter finit par produire les résultats les plus désastreux, mais que vous nous dites qu'elle sert de psy, elle sert d'ami, autrement dit, l'intelligence artificielle gouverne nos vies alors qu'elle n'est pas nôtre.
Oui, c'est le fait concret, disons, le plus important de cette étude, c'est de révéler au passage, en réalité, que des contrats noués entre des journaux et des intelligences artificielles peuvent conduire à renvoyer de façon prépondérante des demandes d'information vers tel ou tel site d'information. Voilà, on peut voir l'intelligence artificielle comme une sorte de réseau de neurones permettant à l'utilisateur de cheminer dans ce réseau pour finir par trouver la bonne information, mais en réalité, la façon dont ce grand réseau est fléché est complètement pipé par des accords qui sont à la fois des alliances de partenariat et des contrats commerciaux ont été noués. Donc prendre conscience des choses permet probablement de se prémunir des biais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle, de la même façon que je ne dis pas qu'il ne faut pas... Enfin, on avait effectivement une analogie avec la presse et avec les billets, les avis. La bêtise serait à la fois de dire bah, « du coup, je n'utilise pas cet outil », de la même façon que ce serait stupide de dire « je ne lis plus la presse ». Si, il faut lire la presse, mais en sachant à qui on a affaire. Et donc, il y a probablement un énorme travail de pédagogie à faire. La première chose, donc, c'est de comprendre que l'IA, ce n'est pas quelque chose de neutre. Moi, je suis toujours effaré quand, sur Twitter, sur X Twitter, sous une affirmation, certains utilisateurs peuvent dire « Grok, est-ce que c'est vrai ?» Alors, s'il s'agit de demander la date précise d'une élection ou un PIB, éventuellement, ça peut être intéressant. Mais lorsqu'il s'agit de demander à Grok ou à toute autre intelligence artificielle de produire un raisonnement, il faut comprendre que ce raisonnement sera naturellement biaisé par non seulement par, comme vous l'avez dit, par des présupposés idéologiques qui sont ceux des créateurs, des possesseurs de ces intelligences artificielles, mais aussi par les sources sur lesquelles il s'est entraîné. Dans l'accord noué entre Le Monde et OpenAI, donc la société qui gère ChatGPT, l'accord a consisté aussi à ouvrir l'intégralité des archives du Monde à ChatGPT de façon à ce qu'il s'entraîne. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si la connaissance que ChatGPT a de la France et des enjeux français, eh bien, sa première source, c'est Le Monde, parce qu'il en a été décidé ainsi. Il s'est entraîné avec les archives du Monde. Autant dire que la vision que ChatGPT doit avoir des 50 ou 60 dernières années en France est évidemment au minimum biaisé, au pire faux. Rappelons que Le Monde, c'est pas seulement le journal de Boeuf-Méry, mais ça a longtemps été le journal d'Edith Plenel. Vous imaginez le niveau de la catastrophe, et la catastrophe que ce serait de penser que ChatGPT est donc un outil neutre qui répond des choses uniquement factuelles.
Alors, ChatGPT n'est évidemment pas neutre, et chacun a pu en faire l'expérience, mais ce qu'il y a de terrible, c'est aussi la manière dont... une fois que ChatGPT nous a donné une réponse, au lieu de se servir de l'intelligence artificielle comme d'un autre moteur de recherche, allant chercher plus intelligemment que Google ne fait, Google qui a lui aussi ses biais avec les liens sponsorisés et un algorithme qui privilégie un certain type de liens plutôt que d'autres, ChatGPT nous fournit une synthèse et donc pour accéder aux sources, les sources sont plus compliquées. Elles sont rejetées en fin de paragraphe sous forme d'un petit appel de notes blanc sur blanc qu'on n'a pas forcément envie de cliquer. On aboutit là aussi en fait à éteindre la curiosité sous prétexte d'élargir le champ de notre connaissance, sous prétexte de déléguer à une intelligence artificielle le soin de rassembler beaucoup plus de liens qu'on ne serait capable d'en trouver et sur lesquels on ne serait pas capable de cliquer parce qu'il y en a trop. Et ben en fait on finit par ne cliquer sur absolument rien.
Oui, c'est ça. La façon la pire d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est de demander la réponse et d'en rester à la réponse qui était demandée. Alors que si on l'utilise uniquement comme un moteur de recherche, c'est déjà moins pire. Mais comme on l'a vu dans la mesure où les sources sont sélectionnées selon des accords et des présupposés que l'on ne maîtrise pas, c'est pas idéal non plus. C'est-à-dire que voilà, c'est une des portes d'entrée vers la masse de connaissances disponibles. Mais il faut avoir conscience que voilà que ce serait comme une carte de France qui ne montrerait que les entrées d'autoroute et pas les voies secondaires, les chemins de traverse ou les chemins noirs à la Sylvain Tesson. Voilà.
Cette intelligence artificielle, donc à qui on demande de nous renseigner et même de nous aider à décider lorsque nous sommes indécis, c'est peut-être aussi le symptôme d'une décision publique qui est de plus en plus obscure, c'est aussi le symptôme d'une information qui est de plus en plus fragmentée, c'est aussi le symptôme en fait d'un soupçon général sur tout ce qui est communication officielle, journaux officiels ou journaux assimilés à l'officiel, le monde média de référence. Et donc les Français, en fait, comme sans doute le reste du monde, sont en train de se dire, voilà, en fait, le terrain est piégé. Quand mon gouvernement parle, forcément, il me ment. Quand le journal de référence me décrit une situation, forcément, cette situation doit être différente. Faisons confiance à une intelligence qui aura un éventail plus large et même beaucoup plus large que moi, une capacité de lecture beaucoup plus rapide pour me donner une synthèse intelligente.
Oui, le problème, c'est de croire qu'il s'agit d'une alternative alors que l'effet serait plutôt celui d'un renforcement du discours auquel on veut échapper. Mais tout dépend comment on l'utilise. Si on est capable, l'intelligence artificielle obéit quand même aux requêtes. Donc si on a suffisamment de formation et si on lui demande d'aller chercher quelque chose dont on a déjà l'idée et qui est de l'ordre de l'alternative, elle ne va pas refuser. En réalité, c'est lorsqu'on pose des questions ouvertes et qu'on ne la dirige pas. L'intelligence artificielle, les robots comme ChatGPT ou d'autres, si on leur tient la bride extrêmement serrée, on peut en obtenir quelque chose. Mais si on pose des questions simplement ouvertes du genre pour qui dois-je voter, par exemple, bien évidemment, la réponse sera celle des journalistes du Monde. Voilà, si je résume. Mais cela dit, dans notre conversation, c'est très intéressant de se pencher sur l'intelligence artificielle, sur son pouvoir et ce qu'elle représente. Et il est important d'être déniaisé à la fois sur le pouvoir qu'elle représente et sur la façon dont elle fonctionne. Mais nous tombons dans un autre biais, qui est celui de croire qu'elle est, elle est parfaitement omniprésente, omnisciente et remplit tous les interstices, alors qu'en réalité, comme le démontre quand même l'enquête qui a été réalisée sur les municipales françaises, elle ne reste que la 14e source d'information, et même lorsqu'elle se hissera, et ça se produira parmi les premières sources d'information de nos compatriotes, ce ne sera qu'une source en plus. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qu'il ne faut probablement pas perdre de vue. C'est-à-dire que les gens ne sont pas aspirés entièrement dans l'univers numérique ou de l'intelligence artificielle. Ils rajoutent une corde à leur arc et ensuite se font une opinion. Quand je vous parlais de ma coiffeuse qui existe réellement, elle a des conversations politiques où elle fait part simplement de sa vie et de son expérience. En l'occurrence, c'est une femme dont le salon de coiffure s'est fait cambrioler deux fois, qui a dû à plusieurs reprises être confrontée au règlement de franchise absolument scandaleuse qui ont déstabilisé son commerce. Et bien cette expérience vécue, restituée à ses clients devant une vitrine brisée, bien évidemment, a beaucoup plus d'impact sur la situation réelle de la ville et pour les habitants de cette ville que n'importe quelle question posée sur ChatGPT. Donc il faut aussi ne pas être dans la sidération et se souvenir que tout ne se passe pas dans les univers numériques. La vraie vie des vrais gens continue à se déployer, y compris pour ceux qui consultent ChatGPT. Je suis persuadé que ma coiffeuse pose parfois des questions à ChatGPT. Il n'empêche que son expérience sensible et réelle pèse beaucoup plus. Et les conversations qu'elle peut avoir avec ses clients pèsent également très très fort. Et je crois que c'est d'autant plus vrai qu'on est dans un double mouvement qui commence à être très très perceptible aux États-Unis, de lassitude aussi de cette dématérialisation extrêmement, extrêmement forte. Je m'explique. Ce sont des petits signes, mais qui probablement en disent beaucoup. Il y a, dans le marché de la musique et du disque, un engouement sans précédent pour les 33 tours. Voilà, c'est-à-dire que les 33 tours, certains pensent que c'est une forme de nostalgie. Absolument pas, les 33 tours rencontrent un succès très important auprès des nouvelles générations qui n'ont jamais eu de manche-disque ni de tourne-disque. En réalité, ils ont besoin de retrouver un contact avec un objet, de pouvoir le poser sur un tourne-disque et de l'écouter physiquement avec des amis autour de ce tourne-disque. Il y a un développement aux États-Unis où le mouvement est bien sûr de dématérialisation est plus avancé qu'ici, une éclosion, encore modeste certes, mais qui là aussi doit être vue comme un signe, de clubs ludites. Les clubs ludites, les ludit clubs en anglais, donc font bien sûr référence au mouvement anti-technologique ou industriel du 19e siècle. Ce sont des clubs où les jeunes gens s'engagent pour, en s'y rendant, de se séparer de leur téléphone portable, de façon à vivre cette expérience extraordinaire d'être avec leurs semblables pendant quelques heures, une journée ou un week-end, sans accès aux univers numériques. Alors, on pourra nous rétorquer que ce ne sont que quelques milliers de jeunes, que aussitôt sortis, ils doivent consulter leur SMS, etc. Certainement, mais il n'en reste pas moins vrai que ce désir de contact réel se superpose aux nouvelles possibilités offertes par la technologie. C'est pas l'un ou l'autre, mais à mesure que les technologies numériques, l'intelligence artificielle progressent, eh bien, il y a un désir de rééquilibrer nos vies et nos expériences quotidiennes par davantage de contacts humains, de choses matérielles. J'ai oublié de le dire, dans les clubs ludites, une des activités principales qui est appréciée, c'est de fabriquer des choses avec ses mains, de repartir avec ces objets qu'on a fabriqués soi-même. Autant de choses fondamentales, et puis aussi de parler sans pouvoir aller demander justement à ChatGPT est-ce que ça c'est vrai ou quel était ce film. Et donc chacun raconte voilà ses expériences, sa vie de façon, enfin, comme on le faisait finalement auparavant. Tout ça retrouve de l'agrément, et je crois que les partis politiques ou les associations de tous ordres qui se réfugieraient uniquement dans un espace numérique passeraient à côté de quelque chose. C'est-à-dire que pour prendre en compte les effets du numérique et de l'intelligence artificielle sur la société, il ne faut pas seulement s'emparer de ces outils, il faut aussi être tout à fait conscient des manques et des désirs inassouvis qu'ils créent. Voilà la façon probablement intelligente de s'emparer, de s'adapter à cette nouvelle donne. Et je pense aussi, dernier exemple, que par exemple une expérience comme celle qui est offerte par le canon français, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des centaines de jeunes et de personnes qui sont réunis en un lieu physique unique autour de cochons grillés, de fromages qui puent, et qui dansent dans la sueur au son des accordéons en se tenant par les épaules. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'une partie du succès, ce n'est pas seulement de communier dans l'identité française retrouvée et si malmenée aujourd'hui, mais aussi le plaisir de retrouver une sociabilité très incarnée. Ouais.
Effectivement, quelque chose qui nous renvoie à notre corps, à l'autre, aux relations, et non pas aux relations virtuelles, quelque chose qu'on peut éprouver immédiatement dans sa vérité, et y compris dans son inconfort. Le pire problème, à mon sens, de l'intelligence artificielle, c'est cette espèce de suavité abominable avec laquelle l'intelligence artificielle noue des liens avec nous, nous tutoie, reconnaît qu'elle s'est trompée, s'excuse platement. Parmi les collaborateurs avec qui je travaille, certains ont ordonné à ChatGPT de ne pas être gentil, ont demandé qu'on supprime toutes les formules de politesse. En fait, on demandait à ChatGPT de se comporter comme quelqu'un normal, qui n'éprouve pas le besoin d'être un manuel de politesse 2.0 en permanence.
Et c'est certainement une décision extrêmement sage qui permet d'éviter de malgré tout, au fil de l'usage, de brouiller les perceptions, de se souvenir que l'on a affaire à une sorte de machine qu'on peut utiliser, les plus âgés comprendront à quoi je fais référence, utiliser comme un quid ou comme une encyclopédie, mais pas du tout comme un copain qui a de l'empathie, de la compassion, et qui veut notre bien, car bien évidemment, ce n'est pas vrai, et c'est tout simplement impossible, puisque ce bidule n'a pas de conscience, voilà, tout simplement.
Dans ce que vous nous décrivez sur ces clubs ludites américains, on sent que c'est à la fois la génération qui est vraiment née, baignée dans le numérique dès sa plus tendre enfance, qui est en même temps victime sans doute de la numérisation grandissante des usages voulue par les plus vieux, et qui est capable de sécréter les anticorps qui nous permettra sans doute d'apprivoiser en fait ce monde numérique dans lequel les gens de ma génération et de la vôtre sont tombés sans préparation et parfois y ont coulé.
Oui, enfin, je pense qu'ils recherchent une forme d'équilibre. Je pense que les plus âgés, malgré tout, ont eu cette expérience sensible au fil de leur vie, ont conservé un certain nombre de ces réflexes, de ces habitudes, tandis que ces jeunes-là étant des, désolé pour le terme anglais, donc des natifs numériques, des digital natives, comme on dit aux États-Unis, ont la nécessité de rechercher par eux-mêmes, de reconstruire, de rebâtir, de renouer ces liens à la force de la volonté. Mais on peut faire l'analogie d'ailleurs avec le progressisme tout entier, c'est-à-dire que ces générations-là sont des générations qui ne peuvent pas se rattacher au maillon précédent parce qu'il était défaillant, et donc ils sont obligés d'avoir une démarche beaucoup plus construite pour aller rattacher les wagons plus loin. Et donc le simple fait que ces jeunes-là connaissent l'existence des ludites, souhaitent reproduire quelque chose qui l'évoque, eh bien, montre cela de façon certainement, à mon sens, très forte. Et une fois de plus, ça ne signifie pas qu'ils n'utiliseront pas ces technologies, ça signifie qu'ils veulent ajouter à ces technologies les expériences concrètes, humaines, physiques, qui sont celles de, finalement, malgré tout, de la vraie vie, qui sont nécessaires à l'équilibre de tout un chacun.
Merci beaucoup Xavier Van Beard, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sico en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et la ligne droite, aujourd'hui, c'est une chronique d'Alice Meunier. Bonjour Alice.
Bonjour.
Vous vous êtes intéressée au déplacement des parlementaires français.
C'est ça. Donc, chers auditeurs, bonjour. Nous vivons une époque où le mot souveraineté est sur toutes les lèvres. On s'inquiète, à juste titre, des ingérences étrangères qui tentent de déstabiliser nos institutions ou d'orienter nos décisions. Mais curieusement, notre regard collectif souffre d'un étrange daltonisme politique. Il y a des influences que l'on traque avec une sévérité implacable et d'autres que l'on tolère dans un silence feutré. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui touche au cœur même de notre représentation nationale, les déplacements parlementaires financés par des entités privées étrangères et plus particulièrement le rôle pivot du réseau Elnet dans les voyages liés à Israël. Elnet est une organisation non gouvernementale qui promeut les liens entre l'Europe et Israël et qui est inscrite en France auprès de l'Assemblée nationale comme représentante d'intérêts privés depuis 2024. Qu'on s'entende bien, la diplomatie parlementaire en soi est non seulement légitime mais aussi nécessaire. Il est parfaitement normal et même souhaitable que nos députés et nos sénateurs se rendent à l'étranger. Visite des zones de crise, rencontre des responsables politiques et se forge une opinion directement sur le terrain. Un élu enfermé dans le confort des palais nationaux serait un élu aveugle aux réalités du monde. Le problème ne réside donc pas dans le voyage, mais dans la facture. Le problème commence lorsque ces déplacements, qui engagent parfois la parole ou la sensibilité de la France, sont entièrement pris en charge par des organisations privées défendant des intérêts géopolitiques clairement identifiés. La question centrale n'est pas de savoir si ces réseaux ont le droit d'exister, dans une démocratie les représentants d'intérêts privés sont légaux, mais de savoir quel peut être le but recherché par ce type d'association. Tout d'abord, il faut regarder la réalité des chiffres. Selon l'enquête de Mediapart, le réseau Elnet a financé à lui seul 101 déplacements de parlementaires français depuis 2017, dont 99 vers Israël. Cela représente environ 15% de l'ensemble des voyages sponsorisés par des tiers. Près d'un déplacement sur 6 est donc pris en charge par ce seul et unique réseau d'influence. C'est pourquoi l'Elnet, ce réseau européen fondé en 2007, s'inspire ouvertement de l'AIPAC américain, puissant comité pro-israélien. Son objectif initial était clair, sensibiliser concrètement les parlementaires aux positions de l'État hébreu pour façonner l'opinion et influencer les décisions politiques européennes en sa faveur.
Et alors, peut-on réellement parler de transparence dans ces déplacements parlementaires ?
Eh bien, face à cette stratégie de persuasion, nos règles éthiques et morales sont dérisoires. Pour les députés et les sénateurs, l'obligation légale consiste à déclarer tout avantage d'une valeur supérieure à 150 euros. Cette formule simpliste met sur le même plan un repas d'affaires et une mission internationale complète avec vol, hôtel de luxe et sécurité privée. Le public sait que le voyage a eu lieu, mais le coût réel reste opaque. Le seuil de déclaration à 150 euros ne permet pas de mesurer l'ampleur réelle des avantages reçus, ni le niveau potentiel d'influence exercé. De plus, le système actuel empêche toute lisibilité globale lors des voyages de groupe. Prenons l'exemple des commémorations du 7 octobre 2024. Plusieurs parlementaires partent ensemble aux mêmes dates avec le même organisateur, l'Elnet. Pourtant, leurs déclarations apparaissent de manière totalement isolée. Les délais de publication varient de quelques jours à près de 7 semaines après le retour. Par conséquent, la nature de ces séjours change. On passe de la diplomatie parlementaire à l'industrie de la persuasion. Le programme est entièrement verrouillé par un acteur privé, ce qui dépossède trop souvent les élus de contradictions ou de pluralisme sur le terrain. La question peut donc se poser pour ces parlementaires d'accepter ou non, car pour certains cela permet de se faire une certaine idée, et d'autres préfèrent préserver leur indépendance. Dès lors, ce phénomène pose aussi une question de souveraineté nationale. On peut se demander si la répétition de ces séjours clés en main risque d'aligner la parole de nos élus sur les intérêts d'un État tiers, brisant la position d'équilibre historique de la diplomatie française. Notre pays s'inquiète, légitimement, des ingérences russes, chinoises ou qataries. En Roumanie, toute l'Europe s'était offusquée du fait que la Russie aurait acheté des publicités sur les réseaux sociaux pour promouvoir un candidat à ses idées. L'élection présidentielle a donc été annulée par l'Union européenne. L'indépendance de la nation exige de regarder toutes les influences étrangères avec la même lucidité.
Et non pas d'en dénoncer certaines au détriment d'autres. Merci beaucoup, Alice Meunier.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et bonjour Gilles Brochard.
Bonjour Richard, bonjour à tous.
Alors, heureusement qu'il y a Donald Trump, quand on ne sait pas quoi dire, il est toujours là ?
Oui, alors, il y a longtemps que je n'en avais pas parlé, hein, il est dans la tourmente et je peux reprendre le titre du Figaro en une. Donald Trump dans le bourbier iranien, une qui contraste avec celle du Parisien, un De Gaulle géant à l'occasion de la sortie aujourd'hui du film La Bataille de Gaulle. Alors, car faute de lui avoir infligé une défaite décisive, le locataire de la Maison Blanche peine à conclure un accord de paix avec le régime iranien. Trump découvre à ses dépens les réalités géopolitiques du Moyen-Orient. Le président américain fait les frais de sa méthode. Il a ignoré les canaux diplomatiques traditionnels, préférant s'appuyer sur un petit cercle de fidèles. Et de son côté, Téhéran menace de relancer la guerre. Alors c'est pourquoi Patrick Saint-Paul, dans son éditorial en première page du Figaro, écrit ceci. Un temps affiché pour justifier sa guerre en Iran, l'intention était louable, faire tomber les mollahs. Depuis son avènement, le régime iranien persécute son propre peuple, promet de rayer de la carte Israël et menace la sécurité régionale. Depuis la révolution de 1979 et l'humiliation de la crise des otages à l'ambassade américaine, tous les prédécesseurs de Donald Trump ont eu la tentation d'abattre le régime anti-américain de Téhéran. Alors, après avoir étudié les options militaires, tous se sont finalement ravisés pour une raison que Donald Trump, grisé par sa victoire éclair au Venezuela, choisit d'ignorer. Chance de succès trop incertaine. Alors, Patrick Saint-Paul va jusqu'à écrire « Trump découvre à ses dépens les réalités géopolitiques du Moyen-Orient. Le président américain fait les frais de sa méthode. Il a ignoré les canaux diplomatiques traditionnels, préférant s'appuyer sur un petit cercle de fidèles. » Et de son côté, Marco Rubio, à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, a déclaré qu'un accord provisoire avec l'Iran pourrait être conclu aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, mais en précisant, écrit Adrian Jones, qu'il n'y a aucune garantie qu'il soit acceptable pour le Sénat et pour le peuple américain.
Ça promet, mais la diplomatie n'a pas l'air d'aller très très bien aux États-Unis.
Alors vous savez, c'est le moins qu'on puisse dire. Savez-vous, Richard, qu'en décembre dernier, une trentaine d'ambassadeurs américains ont été rappelés à Washington, événement sans précédent dans l'histoire de la diplomatie américaine, mieux dans les 195 ambassades qu'entretiennent les États-Unis à travers le monde. 115 postes d'ambassadeurs sont laissés vacants. Leur fonctionnement repose sur les chargés d'affaires qui assurent l'intérim plutôt que des ambassadeurs confirmés par le Sénat, comme l'écrit le correspondant du Figaro à Washington. Toujours bien renseigné. Et puis, avouons-le, en mars 2025, l'ambassadeur américain à Kiev, Bridget Brink, en poste depuis le début de la guerre, n'avait pas été prévenue de la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine. Cette diplomate de carrière qui a servi sous 5 présidents, démocrates, républicains, dont Trump, lors de son premier mandat, avait donné sa démission pour protester contre la politique d'apaisement vis-à-vis de Moscou. Alors, au Moyen-Orient, précise Adrien Jones, 5 des 7 pays limitrophes de l'Iran et 4 des 6 États du Golfe n'ont pas d'ambassadeur américain. Les diplomates de carrière ont été principalement visés par ces purges. Alors, autre information que révèle le Figaro, pour se renseigner, mieux vaut s'adresser aux proches du président. La politique africaine est menée par le beau-père de Tiffany Trump, Massad Boulos, homme d'affaires d'origine libanaise qui dirige une entreprise de transport routier au Nigeria, Tom Barak, qui est un ami proche, un confident de Trump, qui a été nommé ambassadeur en Turquie, lui gère plusieurs pays du Moyen-Orient, du Liban à la Syrie. Et puis les Sud-Coréens font passer des messages via Suzy Wiles, la secrétaire générale de la Maison-Blanche. Les Japonais utilisent comme intermédiaire l'un des partenaires de golf de Trump, Maya Soyoshi Son, fondateur de la SoftBank.
Ça promet, là aussi. Vous avez lu un débat entre Marion Maréchal et Jean-Philippe Tanguy, orchestré par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles.
Oui, orchestré par Tuc de Aldenis, dont vous avez animé le brillant entretien ce matin, mon cher Richard, avec Sébastien...
Merci pour cette minute d'autopromotion.
Avec Sébastien Ligné. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun tous les deux, la députée européenne au Parlement européen et le député au Parlement français? Alors, ils incarnent deux sensibilités. Alors, l'idée, c'était vraiment de les réunir dans le cadre de ce qu'ils appellent une conciliation des droites. Donc, ils incarnent deux sensibilités du camp dit national, hein, l'une plus identitaire, libérale, l'autre plus souverainiste et sociale. Alors, familièrement et culturellement, je viens de la droite gaulliste, bonapartiste, confie Tanguy. Je n'ai pas de racines de gauche, quoi qu'on pourrait contester les racines bonapartistes. Hein. Il existe dans cette droite bonapartiste un véritable héritage civilisationnel, la conception du peuple, du citoyen libre, indépendant, avec sa famille, son travail, son autonomie, par l'éducation et par la pensée. Être avec l'État, oui, mais par choix, par amour du pays, et non sous la laisse d'un État socialiste. Et de son côté, Marion Maréchal souhaite, je cite, « réduire le train de vie de l'État, les dépenses publiques, baisser la pression fiscale, en particulier sur les classes moyennes, et surtout ne pas l'augmenter sur les plus précaires. » Alors pour elle, avec Jean-Philippe Tanguy, il partage une logique productiviste, soutenir l'industrie, supprimer très largement les impôts de production, alléger les normes européennes qui pèsent sur les entreprises, protéger le modèle français, construit sur le nucléaire et l'hydroélectricité, lancer de grands plans sur la géothermie, les biocarburants. Et Jean-Philippe Tanguy, lui, dénonce le mondialisme, le libre-échange intégral, dénonce aussi un État obèse, endetté, qui se croit omnipotent, mais qui est surtout omnipesant et un outil économique très affaibli. Alors, je vais vous poser une question, Richard. Si vous étiez Premier ministre, vous verriez Jean-Philippe Tanguy à quel poste dans le gouvernement ?
C'est une très bonne question.
Et Marion Maréchal, vous la verriez où ?
Marion Maréchal à l'intérieur et Jean-Philippe Tanguy à l'extérieur. Aux anciens combattants.
Alors, on a posé la question à chacun. Et Jean-Philippe Tanguy verrait bien Marion Maréchal à la justice pour remettre la justice au service des victimes. Et Marion Maréchal verrait Jean-Philippe Tanguy, évidemment, à l'industrie et à l'énergie. Voilà, à lire l'ensemble de l'entretien de valeurs actuelles.
Eh bien, Georges Sand aurait 150 ans aujourd'hui pour changer totalement de sujet.
Complètement. Et juste, alors, c'est toujours dans Valeurs actuelles, vous allez dire, j'ai lu beaucoup de choses dans la presse, mais j'ai gardé ça parce que d'abord, c'est un très bon article de Philippe Barthelet, qui est un très bon journaliste, très bon auteur, qui a une belle plume. Et qui, on peut l'appeler sous différents noms, Georges Sand, la bonne fée de la République, ça va vous plaire, né Aurore Dupin en 1804, et que Nietzsche appelait « terrible vache à écrire », j'aime bien cette expression. Alors Victor Hugo, vous savez, va dire à ça, il a fait son éloge funèbre en 1876 devant son caveau, il ne l'avait jamais rencontré. Hein. « Je pleure une morte et je salue une immortelle ». Histoire de ma vie est rééditée donc chez Calman Levy et ses écrits politiques chez Gallimard. Mais je vous conseille vraiment, Richard, de vous rendre, je vous l'ai déjà dit, au Musée de la vie romantique, ancienne maison du peintre Harry Schaeffer, qu'on redécouvre, c'était un grand portraitiste, qui a réouvert donc le musée en février dernier, après 17 mois de travaux. Et vous y trouverez une salle entièrement consacrée à Georges Sand, avec des objets personnels magnifiques, dont une mèche de cheveux coupée sur son lit de mort. Et puis vous verrez, j'ajoute, des très très belles aquarelles de son fils Maurice, qui était pour moi un peintre qui avait énormément de talent. Et allez voir ce musée, surtout quand il fait beau, allez prendre le thé dans le jardin, et vous penserez à nous.
Il y a des rosiers absolument magnifiques. Oui. Je hantais ce musée avant sa fermeture. Oui. Georges Sand a eu comme amant un 16. Vous avez la gentillesse de ne pas le signaler. Mais
c'est vrai.
À tant faire qu'à transformer cette revue de presse en un éloge de ma personne. Allons-y tranquillement.
Mais c'est vrai qu'elle
dans la famille,
choisir.
On prétendait qu'il ne parlait que de politique.
Ah,
et
oui.
Je crois que les lettres démentent cette version adieu et fini.
Bah, au lit, peut-être moins. Mais elle a eu pas mal d'amants qui les collectionnaient, mais ça ne s'est pas toujours très, très, très bien passé. Avec Alfred de Musset, ça ne s'est pas bien passé. Alors, on retient les noms comme ça, mais quand on lit la biographie de Georges Sand, il y a des subtilités à avoir. Voilà.
Donc, Musée de la vie romantique. Et merci pour omniprésent.
Oui, j'ai beaucoup aimé cette expression. C'est ce que dit Jean-Philippe Tanguy, qui a parfois des petits éclairs comme ça linguistiques.
Croit omnipotent, mais qui est surtout omniprésent. Ben voilà, Jean-Philippe Tanguy vient d'ajouter un mot extrêmement précis et nécessaire au vocabulaire politique français. Merci pour lui et merci à vous, Gilles Brochard, pour cette excellente revue de presse, une fois de plus, où vous avez souligné tout le mérite qu'il convient d'accorder à Georges Sand. Chers amis, il est 9h41 pile. Merci d'avoir été avec nous. Vous nous quittez sur YouTube et vous nous quittez sur X. Mais on ne se quitte pas, bons amis, sans avoir d'abord demandé un peu d'argent.
Les bons comptes font les bons amis et nous avons besoin de vous, chers amis de Radio Courtoisie, vous qui l'écoutez chaque jour ou chaque semaine ou régulièrement et en tout cas qui appréciez son travail et partagez les idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne dès maintenant et nous aider ainsi à voir plus clair sur la trésorerie. Soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Et nous réécoutons tout de suite l'entretien avec Yann Valéry qui portait sur le meurtre de ce jeune garçon anglais, Novak, tué par un sikh de 23 ans et menotté par la police alors même qu'il était en train d'agoniser.
Ligne droite. Debout les Français.
Et Debout les Français, c'est avec Yann Valéry. Bonjour Yann.
Bonjour à tous vos auditeurs.
Voilà, et donc nous allons revenir sur la manifestation qui a eu lieu à Southampton, et je crois que les heures continuent, pour, comme l'a rappelé tout à l'heure Maëlys, rappeler à la police qu'en fait, quand quelqu'un est assassiné par un sikh, il vaut mieux arrêter l'assassin plutôt que menotter la victime. Voilà, Vikram Digva, donc jeune homme sikh de 23 ans, a d'ailleurs été condamné hier à une peine de prison à vie, assortie d'une peine de sûreté de 21 ans pour le meurtre d'Henri Novak, 18 ans, qui a été poignardé. Et racontez-nous la manière dont les choses se sont passées. Et on regardera d'ailleurs un extrait d'une vidéo de l'arrestation de la victime.
Oui, alors je reviens rapidement sur les faits. Donc ça se passe le 3 décembre 2025. Henri Novak à Southampton, donc tout au sud de l'Angleterre, rentre chez lui, visiblement ivre. Une soirée arrosée, il croise Vikram Digva, il s'embrouille, il y a une altercation verbale et il prend des coups de couteau, un poignard de 21 cm, hein, donc c'est une belle lame quand même, blessure au cœur fatale, la police arrive, Et en fait, le jeune Anglais, lui, n'est pas en état de parler, ou il est à l'agonie, tout simplement, et Digua affirme avoir été victime d'une agression raciste, que son turban a été arraché. Les agents de police le croient immédiatement, hein, puisqu'ils sont garde à vous au Royaume-Uni comme en France, d'ailleurs. À partir du moment où le mot magique racisme est prononcé, l'homme blanc n'existe plus, l'homme blanc n'est pas tolérable. Et là, c'est ce qu'il se passe là. Et du coup, Nowak a beau dire qu'il étouffe, qu'il va mourir, hein, il dit « I can't breathe ». Il dit la même phrase, en fait, que George Floyd en 2020, sauf que lui, tout le monde s'en fout. Et en réalité, donc, la police lui dit qu'il n'a rien. Et puis, elle regarde à la fin, effectivement, s'il a été poignardé, mais sauf que la victime décède. Donc là, ça s'est passé fin décembre 2025. Et donc la police anglaise du district de Southampton, de l'île of Wight, a laissé un homme blanc de 18 ans mourir parce que elle a entendu le mot racisme. Et donc il y a eu son procès ces derniers jours, qui s'est soldé par une condamnation à perpétuité pour le Sikh qui a menti. Sa mère avait dissimulé l'arme. Donc c'est vraiment quelque chose d'organisé. Et en fait, ce qui suscite la colère là, ces derniers jours au Royaume-Uni, et notamment hier soir à Southampton, et à mon avis ce week-end dans plusieurs villes anglaises, et peut-être dans les semaines à venir dans le Royaume-Uni, il faut s'y attendre, les gens sont en colère parce que les Blancs commencent à en avoir un petit peu marre d'être traités comme des citoyens de seconde zone au Royaume-Uni sur leurs propres terres. Ils ont bouffé en 2020, ils ont bouffé du Black Lives Matter partout. Leur sport populaire, le football, a vu tous les joueurs de foot devoir poser un genou à terre pour un noir délinquant mort aux États-Unis. Et là, on a un blanc de 18 ans qui se fait tuer par un Sikh. Donc, c'est vraiment le symbole des conséquences potentielles de l'immigration sur leur terre. Et au final, la vidéo a été diffusée aussi cette semaine, et on voit
alors justement, je voudrais qu'on regarde très brièvement un extrait de la vidéo où Henri Novak est menotté par les policiers. Alors ça, c'est la vidéo où on voit les manifestants.
What's happened to you, right? Been stabbed. You've been stabbed. Whereabouts? I don't think you have, mate. Put the hand in the cuff, mate.
Voilà. Je ne peux pas respirer, on l'entend, et on entend surtout le bruit des menottes qui est absolument terrible, parce que cet homme a été frappé de plusieurs coups de couteau, et les policiers se contentent, avec beaucoup de calme et de professionnalisme britannique, de le menotter. Effectivement, la vidéo a été diffusée, et je crois que c'est ça qui a rendu les Anglais fous furieux, puisque donc il était évident pour n'importe qui, sauf pour des policiers terrorisés à l'idée d'être accusés de racisme, qu'il y avait un problème.
Ben, c'est bien ça le fond du problème. Outre l'horreur de la vidéo où on voit, j'ai envie de dire, l'un des nôtres mourir par négligence et par je m'en foutisme de la police. C'est vraiment le premier réflexe, et ça montre à quel point la police anglaise, mais j'ai envie de dire toutes les polices occidentales ont été complètement gangrénées par le politiquement correct et par l'idéologie antiraciste. On peut se souvenir de ce qu'il y avait eu en Allemagne il y a quelques années où un islamiste saute sur un type de l'AFD pour lui planter un couteau, et un des premiers réflexes de la police allemande, c'est de s'en prendre aux militants de l'AFD parce qu'il croyait que c'était lui qui avait provoqué la chose. Et en fait, là, on a vraiment la conclusion de cet antiracisme, ce poison, hein, parce que là, c'est un poison, ça conduit à la mort d'un homme, cet antiracisme qui conduit à laisser un blanc crever parce qu'il faut privilégier le Sikh, il faut privilégier la différence, il faut privilégier l'autre. Et là, vous avez vraiment l'aboutissement de tout ça, et je pense que ça peut être une des gouttes d'eau qui fasse déborder le vase au Royaume-Uni, et peut-être ailleurs d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, les Blancs vont en avoir ras-le-bol. Les Anglais, eux, on oublie toujours que mois de juin, il y a l'été qui arrive, il va commencer à faire chaud. On se rappelle des émeutes qu'il y avait eu à Southport il y a quelques années, qui avaient embrasé le Royaume-Uni. On n'en est pas loin. Ça démarre de Southampton, ça peut vite déraper partout, tout simplement parce que les gens vont exprimer leur colère. Et d'ailleurs, On voit déjà les articles, déjà la presse française mainstream a mis beaucoup de temps à parler de cette affaire et elle n'a pas fait une George Floyd là-dessus. Et j'ai vu un article vraiment dégueulasse signé Cécile Ducourtieu là, pour Le Monde, correspondante au Monde, qui signe « Au Royaume-Uni, l'extrême droite instrumentalise les errances de la police après le meurtre d'un étudiant par un jeune sikh ». C'est un article dégueulasse quand on sait que cette même correspondante parlait de toutes les manifestations Black Lives Matter à l'époque, parlait de George Floyd, du Royaume-Uni et de la Belgique qui interrogeaient leur passé colonial. On voit vraiment Le Monde, journal de référence en France, on voit vraiment là où ils vont en venir, et on va bouffer pendant des semaines et des semaines de la récupération politique de l'extrême droite, etc. etc. Mais je pense qu'il y a un moment où cela passera au-dessus de tous les Blancs qui en ont ras-le-bol de se faire humilier au quotidien par les leurs à cause de l'idéologie de la religion antiraciste qui est insupportable et qui conduit à la mort, encore une fois, d'un jeune Blanc de 18 ans.
Alors, je ne suis pas certain qu'il faille absolument tout analyser sous l'angle blanc contre noir, et pour moi, une journaliste du Monde ne fait pas partie des miens, mais il y a dans cette affaire, donc, puisque nous sommes en train de parler avec Yann Valéry du meurtre de Henri Novak par Vikram Digva, un jeune homme sikh de 23 ans, donc qui a poignardé un autre jeune homme de 18 ans à Southampton. Nous sommes en train d'en parler avant que je n'interroge Tuc Duhal Denis, qui vient de sortir des mémoires, on peut le dire, même s'il est un peu jeune. Il y a dans cette affaire, évidemment, la manière dont les journalistes disent qu'il y a une instrumentalisation, parce que c'est bien connu, quand c'est le bon mort, il est normal d'expliquer que c'est un fait de société, quand c'est le mauvais mort, c'est juste un fait divers. Et là, par exemple, la ministre de l'Intérieur britannique, Shabana Mahmoud, je crois que ça parle tout seul, a expliqué que rien ne peut justifier qu'on détourne cette tragédie pour attiser la violence et les troubles à l'ordre public. C'est-à-dire que là aussi, on sent que le gouvernement britannique s'enferre dans l'idée que, alors qu'il est évident qu'il y a un problème de racisme aux États-Unis, alors qu'il est évident que cette société multiculturelle est en fait une société multiconflictuelle, il continue à refuser de regarder la réalité en face et de considérer que tous les débris de l'Empire britannique concentrés sur un seul territoire, en fait, sont incapables de s'entendre. Voilà, les Gallois ne s'entendent pas avec les Écossais, qui ne s'entendent pas avec les Sikhs, qui ne s'entendent pas avec les Pakistanais. Voilà, donc la mosaïque de l'Empire britannique est en fait une société brisée, multiconflictuelle, et l'establishment britannique refuse d'en tirer la conclusion qui s'impose.
Alors, les dernières réactions, notamment même celle de Keir Starmer, ont été un peu plus alarmistes, on va dire, parce qu'il a quand même beaucoup condamné ce qui s'est passé, il s'est dit horrifié, etc. Mais derrière tout ça, oui, je reviens quand même sur ce que vous avez dit. En fait, il ne s'agissait pas pour moi de dire que c'est les Noirs contre les Blancs, etc. Il s'agissait surtout de dire que c'était les Blancs contre l'idéologie, la religion antiraciste. C'est plus ça, parce que au final, c'est pas une... C'est la religion antiraciste qui a aussi provoqué ce qui se passe au Royaume-Uni, qui provoque ce qui se passe en Occident. C'est pas effectivement l'idée de communauté contre les autres, même si au final, on risque d'aboutir malheureusement à ça. Personne ne peut souhaiter la guerre civile, personne ne peut souhaiter des violences entre populations. Néanmoins, ce sont les autorités, ce sont les associations, ce sont tous ceux qui ont distillé le poison idéologique depuis des décennies, qui sèment les graines de la guerre civile. Et pour conclure sur le Royaume-Uni, oui, il est en train de se désagréger, comme il l'a toujours fait, de l'intérieur, avec le Pays de Galles, avec l'Écosse qui veulent partir, l'Irlande du Nord qui est instable. Ça, c'est un problème, on va dire, européen. Mais il est en train de se désagréger également parce que il paye les conséquences d'une politique folle, non pas du Brexit, comme c'était dit à l'époque, mais du Commonwealth. En fait, il a laissé rentrer le monde entier chez lui après avoir perdu son expansion coloniale. Aujourd'hui, il subit les conséquences de ça et il implose, et il va imploser. Mais ce n'est pas spécifique au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni paye le Commonwealth. La France paiera d'avoir été une puissance coloniale, puis de s'être laissée coloniser par ses anciennes colonies. Chacun paiera l'addition en fait, là-dessus. Donc, il ne faut pas voir ça d'un problème uniquement britannique. Il faut voir ça d'un problème sociétal. C'est pour ça que je ramène ça à l'idéologie, à la religion antiraciste, qui en fait a façonné les âmes Ces gens-là ont nié les grooming gangs ou les ont cachés pendant des années pour ne pas apparaître racistes. Là, les policiers ont laissé crever un blanc pour ne pas apparaître racistes. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et ça légitimera sans doute la colère populaire des jours et des semaines à venir, parce qu'il y a un moment où il faut taper du poing sur la table et on peut comprendre cette classe britannique blanche, et pas que, mais majoritairement blanche, qui en a ras-le-bol que son drapeau et que ses terres soient souillées et que son identité soit insultée en permanence. Voilà.
Vous disiez qu'à votre avis, ces manifestations à Southampton risquent de s'étendre. Évidemment, Nigel Farage est intervenu, et donc il ne s'agit pas d'instrumentalisation, il s'agit de commenter un fait. Ces manifestations interviennent 6 mois après les faits, donc c'est parce que, brusquement, c'est le procès en fait du meurtrier qui a réveillé tout ça, parce que personne n'avait entendu parler de ce meurtre en décembre 2025.
Non, effectivement, et là encore, il y a une grosse différence avec l'affaire George Floyd. La vidéo de la mort de George Floyd avait été diffusée quasiment immédiatement et avait provoqué des réactions folles dans le monde entier, d'ailleurs. Et tandis que là, oui, en fait, c'est la diffusion de la vidéo durant le procès et le fait que quelqu'un ait diffusé la vidéo en public qui a provoqué ces réactions. Mais en gros, s'il n'y avait pas eu ce procès ni cette diffusion de vidéo, ce serait passé entre guillemets comme une lettre à la poste, puisque les familles, y compris la famille de la victime, qui a été plutôt digne pendant le procès et qui a fait un communiqué que j'invite vos auditeurs à regarder s'ils ont internet, ils le trouveront d'ailleurs sur un des articles que j'ai fait sur Braise Info. Les familles n'avaient pas parlé de ça ou très peu, et en fait tout a été fait pour étouffer cette affaire, pour ne pas en parler, et c'est à l'occasion du procès que tout cela est ressorti. Donc oui, quand je parle de risque d'émeute et de violence à venir, ça n'est que le début. Là on est dans les premiers jours, avec une manifestation hier localisée à Southampton, lieu du drame, mais il est évident que, connaissant les Britanniques, il va y avoir des manifestations dans toute l'Angleterre, au moins samedi, au moins dimanche. Et on a vu qu'il y avait Tommy Robinson aussi, le dissident britannique, qui était hier à Southampton. Ça peut rapidement s'embraser. C'est pas souhaitable que ça finisse mal, mais en même temps, la colère populaire aussi doit s'exprimer, et surtout les autorités doivent commencer à faire leur mea culpa pour des décennies et des décennies d'humiliation des Anglais, d'humiliation du Royaume-Uni, d'humiliation de leur identité. Et ce mea culpa, il passe par des démissions et par peut-être une refonte du pacte social britannique.
Eh bien, merci beaucoup Yann Valéry, et évidemment nous serons attentifs comme vous au développement du meurtre d'Henri Novak et de la condamnation de Vikram Digva. Et à très bientôt sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, ce sera bientôt le moment de nous quitter, mais évidemment, pour réaliser cette émission et toutes les émissions qui vont suivre, on a besoin que vous nous souteniez.
Voilà, si vous pouvez, en fonction de vos moyens, aller sur soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne et ainsi aider Radio Courtoisie à poursuivre son œuvre. soutenir.rc.fr, merci d'avance.
Et alors, justement, puisqu'on parlait d'émissions à venir...
Dans quelques instants, quelques secondes, la jeunesse de Robert Brasillach d'Envoi au chapitre d'Anne le Pape. À midi, le libre journal de la liberté de penser de Clara Schneider, La France sans filtre au programme. À 17h tout à l'heure, vivement demain, une droite qui assume ses racines pour réveiller la France éternelle avec Emmanuel Brisson dans le RCMAC de Jean-Étienne Poza. 17h30, le Restons courtois d'Arthur de Vatrigan au programme Islam, LGBT, Pays du Golfe, le sport sous emprise. 19h30, le libre journal de la résistance française dirigé aujourd'hui par Nicolas Stocker. 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer. Et à 23h, la soirée musicale, aujourd'hui en compagnie d'Aline, qui nous propose un florilège de Debussy avec La mer, L'après-midi d'un faune, Les jeux et Nocturne.
Voilà. Formidable. Et nous, demain, nous recevrons Monsieur Vasselet, le père de Benoît Vasselet, qui est mort à Dax. Nous recevrons aussi plusieurs personnes pour parler de la faillite de Duralex. Et enfin, nous recevrons Abel Quentin, qui vient de sortir un excellent essai sur l'intelligence artificielle. Voilà, un bon programme.
Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à demain 7h.